Expropriation, nationalisation-sanction et économie mixte. Commençons par les expropriations. L'un des exemples les plus emblématiques concerne les investissements étrangers, notamment français, en Russie. Avant la Première Guerre mondiale, l'alliance entre la République française et l'Empire tsariste s'était matérialisée dans de vastes emprunts émis par l'État russe et de nombreuses compagnies privées, par exemple dans le chemin de fer. De vastes campagnes de presse, parfois financées par des pots de vin du gouvernement tsariste, avaient convaincu les épargnants et propriétaires français de la solidité de l'allié russe et de la pérennité de ses placements. Après la révolution bolchevique de 1917, le nouvel État soviétique décida de répudier l'ensemble de ses dettes, créances et avoirs, qui, à ses yeux, n'avaient fait que prolonger la vie du pouvoir tsariste, ce qui n'était pas entièrement faux. Une expédition militaire menée par le Royaume-Uni, la France et les États-Unis débarqua en 1918-1920 dans le nord de la Russie, dans l'espoir de venir étouffer la révolution, sans succès. À l'autre bout de la période, la nationalisation du canal de Suez, décidée par Nasser en 1956, conduisit à l'expropriation des actionnaires britanniques et français qui possédaient le canal, et en toucher les dividendes et royalties depuis son inauguration en 1869. Conformément à leurs vieilles habitudes, le Royaume-Uni et la France envisagèrent une expédition militaire pour récupérer leurs biens. Mais les États-Unis, soucieux de ne pas laisser les pays du Sud, en particulier les pays nouvellement indépendants, souvent friands en nationalisation-expropriation, notamment vis-à-vis des anciens maîtres coloniaux, aux mains de l'Union soviétique, décidèrent d'abandonner leurs alliés européens. Face à la pression exercée de concert par les Soviétiques et les États-Unis, les deux ex-puissances coloniales durent retirer leurs troupes et se résoudre à constater ce qui devint alors évident aux yeux de tous, l'ancien monde propriétariste et colonial avait cessé d'exister. Les expropriations d'actifs étrangers illustre à la perfection le basculement politico-idéologique du monde au cours de la première moitié du XXe siècle. Entre 1914 et les années 1950, c'est toute la conception de la propriété qui a changé, sous l'effet des luttes sociales et politiques et des événements militaires. La solidité des droits de propriété acquis dans le passé, qui semblait inébranlable en 1914, a cédé la place dans les années 1950 à une conception plus sociale et instrumentale de la propriété, plaçant le capital productif et l'investissement au service du développement, de la justice ou de l'indépendance nationale. Ces expropriations jouèrent un rôle considérable pour la réduction des inégalités entre pays, puisque les anciens pays colonisés ou débiteurs se retrouvèrent à se posséder eux-mêmes, mais aussi pour la réduction des inégalités à l'intérieur des sociétés européennes, dans la mesure où les actifs étrangers constituaient l'un des placements favoris des propriétaires les plus aisés, comme nous l'avons vu en examinant les archives successorales parisiennes. L'inégalité des revenus particulièrement forte observée au Royaume-Uni et en France avant la Première Guerre mondiale, par comparaison par exemple à l'Allemagne, s'explique pour une large part par l'importance des revenus de placement reçus du reste du monde par les riches propriétaires britanniques et français. En ce sens, le régime inégalitaire interne aux sociétés européennes était étroitement lié à la structure externe de l'inégalité au niveau international et colonial. Ajoutons que des vagues de nationalisation, qui furent parfois de véritables nationalisations-expropriations, eurent également lieu en Europe, avec une ampleur variable suivant les pays européens. De façon générale, la foi dans le capitalisme privé avait été fortement ébranlée par la crise économique des années 1930 et par les cataclysmes qui en ont découlé. La Grande Dépression, déclenchée en octobre 1929 par le krach boursier à Wall Street, frappa les pays riches avec une brutalité inégalée à ce jour. Dès 1932, le chômage touchait un quart de la population active industrielle aux États-Unis, comme en Allemagne, au Royaume-Uni, comme en France. La doctrine traditionnelle de laisser-faire et de non-intervention de la puissance publique dans la vie économique, qui prédominait dans tous les pays au XIXe siècle et dans une large mesure jusqu'au début des années 1930, s'en trouva durablement discréditée. Un peu partout, un basculement vers un plus grand interventionnisme se produisit. Assez naturellement, les gouvernements et les opinions publiques demandèrent des comptes aux élites financières et économiques qui s'étaient enrichies tout en conduisant le monde au bord du gouffre. On se mit à envisager des formes d'économie mixte, mettant en jeu différents degrés de propriété publique des entreprises aux côtés des formes traditionnelles de propriété privée, ou à tout le moins une très forte régulation et une reprise en main publique du système financier et du capitalisme privé dans son ensemble. En France et dans d'autres pays, ce climat général de défiance envers le capitalisme privé fut en outre renforcé en 1945 par le fait qu'une bonne partie des élites économiques furent suspectées de collaboration avec l'occupant allemand et d'enrichissement indécent entre 1940 et 1944. C'est dans cette atmosphère électrique que furent lancées les grandes vagues de nationalisation de la libération, qui concernaient notamment le secteur bancaire, les mines de charbon et l'industrie automobile, avec en particulier la fameuse nationalisation-sanction des usines Renault. Le propriétaire, Louis Renault, fut arrêté comme collaborateur en septembre 1944. Ses usines furent saisies par le gouvernement provisoire et nationalisées en janvier 1945. On peut également mentionner, dans le même esprit de sanction, l'impôt de solidarité nationale, institué par l'ordonnance du 15 août 1945. Cet impôt exceptionnel et progressif, prélevé à la fois sur le capital et sur les enrichissements survenus au cours de l'occupation, ne fut prélevé qu'une seule fois. Mais ces taux extrêmement élevés ont constitué un choc supplémentaire très lourd pour les personnes concernées. Il comprenait un prélèvement exceptionnel sur la valeur de tous les patrimoines, estimé au 4 juin 1945, à des taux allant jusqu'à 20% pour les patrimoines les plus élevés, et un prélèvement exceptionnel pesant sur tous les enrichissements nominaux survenus entre 1940 et 1945, à des taux allant jusqu'à 100% pour les enrichissements les plus importants. Les nationalisations jouèrent un rôle central dans de nombreux pays européens et aboutirent à la constitution d'un vaste secteur public dans les années 1950-1970. Nous reviendrons également dans le prochain chapitre sur la façon dont certains pays, en particulier l'Allemagne, la Suède et la plupart des pays d'Europe du Nord, mirent en place à l'issue de la Seconde Guerre mondiale des nouvelles formes d'organisation et de gouvernance des entreprises. Cela prit notamment la forme d'une diminution importante des droits de vote des actionnaires au sein des conseils d'administration et une augmentation correspondante des droits de vote nouvellement attribués aux représentants élus des salariés, et parfois aux collectivités publiques, étatiques ou régionales. Cette expérience est d'autant plus intéressante qu'elle illustre la déconnexion entre la valeur de marché du capital et sa valeur sociale. Tout indique en effet que ces politiques ont conduit dans les pays concernés à de plus faibles valorisations boursières des entreprises, phénomène qui se prolonge d'ailleurs jusqu'à nos jours, sans pour autant que cela nuise au niveau d'activité économique et à la croissance, bien au contraire. La plus forte implication des salariés dans les stratégies à long terme des entreprises allemandes ou suédoises semble avoir plutôt contribué à une meilleure productivité d'ensemble. Enfin, au-delà du cas des nationalisations et de ces nouvelles formes de partage de pouvoir dans les entreprises, la plupart des pays européens ont mis en place entre 1914 et 1950 diverses politiques de régulation des marchés immobiliers et financiers qui ont abouti, de facto, à réduire les droits des propriétaires et la valeur de marché de leurs biens. Le cas le plus emblématique est celui des mécanismes de blocage des loyers qui commencèrent à se développer pendant le conflit de 1914-1918. Ils prirent une ampleur nouvelle à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, à tel point que la valeur réelle des loyers était tombée en France en 1950 à un niveau inférieur à un cinquième de celui de 1914, entraînant une chute comparable du niveau des prix immobiliers. On observe des politiques similaires dans la plupart des pays européens au cours de cette période. Ces politiques traduisaient elles aussi un profond changement d'attitude face à la légitimité de la propriété privée et des inégalités produites par les relations de propriété. Dans un contexte marqué par une très forte inflation, inconnue avant 1914, et où les salaires réels n'avaient souvent toujours pas retrouvé leur niveau d'avant-guerre, il paraissait insupportable que les propriétaires fonciers puissent continuer de s'enrichir sur le dos des ouvriers et des classes sociales modestes et moyennes de retour du front. C'est dans ce contexte que se développèrent dans les différents pays de nouvelles réglementations visant à contrôler les loyers, à augmenter les droits des locataires et à les protéger de possibles évictions, en particulier en allongeant la durée des baux, en fixant le loyer sur de longues périodes et en instituant un droit préférentiel pour le rachat du logement, parfois avec une forte décote sur le prix. Dans leur forme la plus ambitieuse, de tels mécanismes pouvaient être assez proches des réformes agraires, comme celles déjà évoquées dans le cas de l'Irlande ou de l'Espagne, visant à diviser les plus grandes parcelles et à faciliter le transfert de propriété en faveur des exploitants agricoles. De façon générale, la faiblesse des prix immobiliers en vigueur au cours des années 1950-1980, indépendamment de toute règle supplémentaire, facilita mécaniquement l'accès à la propriété de nouveaux groupes sociaux et la diffusion du patrimoine. Épargne privée, dette publique et inflation. Venons-en maintenant au rôle joué par la faiblesse de l'investissement privé, ainsi que par l'inflation et la dette publique dans la chute des patrimoines privés au cours de la période 1914-1950. Soulignons tout d'abord qu'au cours des années de guerre, comme pendant les années 1930, les investissements réalisés dans les secteurs civils non prioritaires étaient tellement faibles qu'ils ne permettaient souvent même pas de remplacer les équipements usagés. Ensuite et surtout, il faut insister sur le fait que l'épargne privée des années 1914-1945 a été utilisée en grande partie pour financer l'augmentation de la dette publique qui a eu lieu pour financer les guerres. À la veille de la Première Guerre mondiale, en 1914, la dette publique représentait l'équivalent d'environ 60-70% du revenu national au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, et moins de 30% du revenu national aux États-Unis. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1945-1950, la dette publique atteignait 150% du revenu national aux États-Unis, 180% en Allemagne, 270% en France et 310% au Royaume-Uni. Voir graphique 10.9. Encore faut-il préciser que le total aurait été encore plus élevé si une partie des dettes contractées pendant la Première Guerre n'avait pas déjà été noyée dans l'inflation des années 1920, en particulier en Allemagne et à un degré moindre en France. Pour financer une telle augmentation de la dette publique entre 1914 et 1945-1950, les épargnants des différents pays durent consacrer l'essentiel de leur épargne non pas à abonder leurs investissements habituels, dans l'immobilier, dans l'industrie ou à l'international, mais à acheter presque exclusivement des bons du Trésor et les divers titres de la dette publique. Les propriétaires britanniques, français et allemands se retrouvèrent aussi à vendre graduellement une part importante de leurs actifs étrangers afin de prêter les sommes nécessaires à leur gouvernement, parfois peut-être par patriotisme, et sans doute aussi parce qu'ils espéraient faire de bonnes affaires. La parole sacrée du pays leur garantissait en principe le remboursement de solides intérêts en plus du principal, et c'est d'ailleurs ce qui s'était produit sans coup férir tout au long du XIXe siècle. Il s'agissait aussi dans certains cas d'emprunts quasi obligatoires, en particulier pendant les années de guerre où les gouvernements exigèrent des banques qu'elles détiennent des quantités importantes de titres publics, tout en prenant des mesures visant à plafonner les taux d'intérêt. Or, le fait est que cette épargne et ses actifs placés dans la dette publique allaient très vite se retrouver à fondre comme neige au soleil, et que la parole sacrée donnée aux propriétaires fut remplacée par d'autres priorités. En pratique, l'un des principaux mécanismes fut la planche à billets et la hausse des prix. Au cours des 18e et 19e siècles, l'inflation avait été quasi nulle, voire graphique 10.10. Les monnaies étaient liées à leur contenu en or et en argent, et leur pouvoir d'achat n'avait presque pas changé. Cela valait notamment pour la livre sterling, ainsi que pour le franc or, qui avait succédé sous la Révolution française à la livre tournois d'Ancien Régime, avec exactement la même parité métallique de 1726 à 1914, preuve s'il en est de la continuité propriétariste, à tel point d'ailleurs que les romanciers français du début du XIXe siècle utilisaient indifféremment la livre et le franc pour ciseler les montants et les frontières sociales, et passaient souvent de l'une à l'autre sans même s'en apercevoir. La guerre mit fin presque immédiatement à cette longue période de stabilité monétaire. Dès août 1914, les principaux belligérants suspendirent la convertibilité de leur monnaie en or. Les diverses tentatives de réintroduction de l'étalon or dans les années 1920 ne survécurent pas à la crise des années 1930. Au total, entre 1914 et 1950, l'inflation dépassa 13% par an en moyenne en France, soit une multiplication des prix par 100, et atteignit 17% en Allemagne, soit une multiplication des prix par plus de 300. Ce dernier pourcentage ne prend pas en comptage l'hyperinflation allemande de 1923. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, moins lourdement touchés par les guerres et moins fortement déstabilisés politiquement, le taux d'inflation fut nettement plus faible, à peine 3% par an en moyenne entre 1914 et 1950. Cela représentait tout de même une multiplication des prix par 3 après deux siècles de stabilité quasi absolue. Dans le cas du Royaume-Uni, cela fut toutefois insuffisant pour éliminer l'imposante dette publique issue des guerres, ce qui explique pourquoi elle s'est maintenue à un niveau élevé outre-Manche pendant les années 1950-1970, avant que l'inflation britannique des années 1970, entre 10 et 20% par an, finisse par en venir à bout. En France et en Allemagne, les choses furent menées de façon beaucoup plus expéditive. Dès le début des années 1950, les énormes dettes publiques des deux pays étaient redescendues à moins de 30% du revenu national, contre plus de 200% quelques années auparavant. En France, l'inflation dépassa les 50% par an de 1945 à 1948, pendant 4 années consécutives. La dette publique fut mécaniquement réduite à peu de choses, beaucoup plus radicalement encore que sous l'effet du prélèvement exceptionnel sur les patrimoines privés appliqué en 1945. Le problème est que des millions de petits épargnants furent également ruinés par l'inflation, ce qui contribuera à aggraver une pauvreté endémique des personnes âgées pendant les années 1950. L'épargne financière des années 1920-1930 avait certes été largement détruite par l'effondrement des marchés boursiers. Il n'en reste pas moins que l'inflation de 1945-1948 engendra un choc supplémentaire. L'une des réponses fut le minimum vieillesse, créé en 1956 pour les personnes âgées sans ressources, et le développement des systèmes de retraite par répartition, créés en 1945, mais qui ne montèrent en puissance que progressivement. En Allemagne, où l'hyperinflation des années 1920 avait gravement déstabilisé les relations sociales et le pays dans son ensemble, on se méfiait davantage des méfaits sociaux de la hausse des prix et on eut recours en 1949-1952 à des méthodes plus sophistiquées pour réduire la dette de façon accélérée. En particulier, la jeune République fédérale allemande mit en place diverses formes de prélèvements progressifs et exceptionnels sur les patrimoines privés, que les propriétaires concernés étaient tenus d'acquitter pendant plusieurs dizaines d'années et dont certains s'appliquèrent jusqu'aux années 1980. Ces prélèvements progressifs de grande ampleur sur les propriétés privées furent également appliqués jusqu'aux années 1980 dans le cadre des programmes dits de Lastenausgleich, partage des charges, visant à indemniser les réfugiés allemands venus de l'Est pour les pertes subies à la suite des changements de frontières. Enfin, l'Allemagne de l'Ouest bénéficia lors de la conférence de Londres de 1953 d'une suspension de sa dette extérieure, qui fut ensuite définitivement annulée lors de l'unification allemande en 1991. Avec les autres mesures, et notamment les prélèvements exceptionnels mis en place en 1952, cette annulation permit à l'État ouest-allemand de s'atteler à la reconstruction des années 1950 et 1960 et d'augmenter sensiblement les marges disponibles pour les dépenses sociales et les investissements en infrastructures.